Welcome to the debate. Bienvenue dans notre émission d'analyse où on confronte différentes perspectives. Aujourd'hui, on se penche sur un moment clé, enfin l'élection présidentielle afghane de 2009.
Ouais, celle qui opposait Hamid Karzai à Abdullah Abdullah.
Exactement. Et on parle quand même d'un scrutin où plus d'un million de votes ont été jetés à la poubelle pour fraude avérée.
C'est énorme.
C'est massif, oui. Et la question centrale qu'on pose aujourd'hui, c'est de savoir si cette fraude monumentale a causé à terme l'effondrement de la République afghane en 2021, ou à l'inverse, est-ce que c'était juste le symptôme d'un État qu'il était de toute façon impossible de démocratiser en pleine guerre ? Moi, je suis convaincu que cette élection a définitivement ruiné la légitimité institutionnelle du pays.
Et moi, je suis persuadée du contraire. Le contexte sécuritaire était tellement désastreux et la dépendance aux armées étrangères tellement totale que ce processus électoral était caduque bien avant l'ouverture des bureaux de vote.
D'accord. Mais regardons un peu le mécanisme psychologique, tu vois. Le contrat social. En 2009, l'invalidation de ce million de bulletins a fait chuter Karzai de 54% à 48,3%.
Oui, ça a forcé un second tour en théorie.
En théorie, voilà. Parce que l'annuler, c'est pas qu'un problème mathématique. C'est un message clair envoyé aux Afghans, qui dit en gros que leur voix ne sert que de décoration.
C'est sûr que...
Et quand Abdullah s'est retiré parce que Karzai refusait d'assainir la commission électorale, on a juste imposé un pouvoir par défaut. C'est ce vice originel qui a brisé toute confiance dans les institutions, quoi.
Je comprends totalement l'argument de la confiance. Mais enfin, comment on peut sérieusement parler de confiance dans les urnes quand un pays entier est sous le contrôle de l'ISAF ?
La force internationale de l'OTAN.
Exactement. Le problème de fond, il était militaire, pas administratif. Le jour même du scrutin, on a eu quoi ? Plus de 400 attaques armées menées par les talibans.
C'était très violent, oui. 26 morts, je crois.
C'est ça. Et à peine 5 jours plus tôt, le QG de l'OTAN à Kaboul explosait. Donc je veux dire, comment tu organises un vote serein dans ces conditions ?
C'est extrêmement difficile, c'est vrai, mais...
C'est impossible. Le résultat, c'est qu'on a eu une participation en dessous de 10% dans des provinces clés comme le Helmand ou Kandahar. L'élection était déjà morte, en fait. Terrassée par la terreur, pas par le dépouillement.
D'accord. La violence limitait la participation. Mais ce sont quand même les magouilles qui ont détruit le sens même du vote. Prenons la commission des plaintes électorales, les CC.
Celle qui était soutenue par l'ONU, ouais.
Voilà. Elle a documenté plus de 720 plaintes majeures. Et avec des preuves accablantes en plus. Et au lieu de corriger le tir, le sommet de l'État a choisi l'omerta. Karzai a maintenu son proche à la tête de la commission. C'est vraiment là que le poison entre en jeu, en fait. On a institutionnalisé l'impunité au vu et au su de tous.
Mais l'impunité, c'était surtout la condition de survie de ce système.
Comment ça ?
Regarde la réaction d'administration américaine à ce moment-là. Ils venaient d'envoyer des renforts massifs et ils ont fini par saluer l'annulation du second tour.
Ah oui, au nom de la stabilité.
Voilà, la fameuse stabilité. Ce qui prouve bien que cette démocratie afghane était sous respiration artificielle. Le fond du problème était dicté par Washington et ses impératifs militaires, pas par une volonté démocratique locale, tu vois. Donc le vice électoral n'a rien causé du tout. Il a juste révélé qu'il tenait vraiment les rênes.
Mais justement, cette validation internationale d'une élection, volée, ça a créé un moule toxique. C'est exactement ce mécanisme qui a engendré le désastre de l'élection de 2014 entre Ashraf Ghani et Abdullah Shah.
Ah, 2014, c'est vrai que c'était le chaos total.
Un festival d'irrégularités. Parce que 2009 était passé sans conséquences. Il a fallu que John Kerry débarque à Kaboul pour imposer un partage du pouvoir totalement improvisé.
C'est vrai.
En traitant les élections afghanes comme un théâtre de marionnettes, on a vidé l'État de sa substance. C'est pour ça que l'armée afghane ne s'est pas battue en 2021. Plus personne ne croyait en ce gouvernement.
Alors là, je t'arrête. L'armée ne s'est pas battue parce que la perfusion américaine a été débranchée, point.
Tu penses que c'est l'unique raison ?
Oui, c'est aussi simple que ça. La fuite d'Ashraf Ghani en août 2021 s'est produite pile quand les dernières troupes étrangères faisaient leurs valises.
C'est vrai que le timing est frappant.
L'État s'est dissous en quelques heures. Vouloir bâtir une légitimité avec des bulletins de vote dans un pays en guerre, vongé par l'intimidation et complètement dépendant de l'étranger pour sa survie physique...
C'était une illusion pour toi ?
Une illusion absolue, ouais. Le retrait militaire a provoqué la chute. Les élections n'y auraient jamais rien changé.
Je reste persuadé que les armes tiennent un territoire, mais que c'est la légitimité qui fait tenir une nation. En avalisant la fraude de 2009 et en escamotant le second tour, on a tué l'idée qu'une institution afghane pouvait être juste. Ça semait les graines de cette reddition silencieuse de 2021.
Et moi, je maintiens qu'on ne peut pas générer de la légitimité avec des élections sous la menace des bombes, surtout avec une participation quasi inexistante dans des zones entières.
C'est un dilemme profond, c'est clair.
Le système est tombé car son seul vrai pilier, l'armée étrangère, est parti.
Bon, ce face-à-face souligne vraiment la complexité de construire un État moderne en temps de crise. Comme le disait un observateur de l'époque, on peut toujours imprimer des millions de bulletins, mais bah, reste à savoir si quelqu'un finira par y croire.
Exactement.
À vous, chers auditeurs, d'évaluer ceux qui forgent ou détruisent réellement la légitimité d'une nation.